Radio Cité Genève.
Cité Culture. Épiphane Amonfo.
Bienvenue à toutes et tous dans Cité Culture. Nous sommes au MAH pour l'exposition Archéologie des fluides. C'est jusqu'au 27 octobre prochain. D'une part, l'exposition explore le pouvoir hypnotique des objets et œuvres d'art s'inspirant des réflexions de Valdemar Deuna, ancien directeur du musée. Et d'autre part, elle examine comment ces objets peuvent captiver notre attention et nous transporter à travers le temps et l'espace. Bonjour Pascal Rousseau.
Bonjour.
Vous êtes le commissaire de l'exposition Archéologie des fluides. Qu'évoque ce titre Archéologie des fluides ?
Il y a deux termes qui se rencontrent, qui ne sont pas forcément d'ailleurs évidents dans la rencontre. C'est peut-être ce choc qui m'intéressait. Alors archéologie, pourquoi ? Parce que cette exposition qui dialogue avec donc les collections du musée est faite à partir du regard qu'a pu porter justement sur ces collections et sa constitution d'ailleurs un directeur qui a sévi ici pendant 30 ans, de 1921 à 1951, c'est pas rien, trois décennies. Il s'appelle Valdemar Deuna, est archéologue de formation. D'où le titre, c'est quelqu'un qui a consolidé, bien sûr, la part de l'archéologie dans les collections, mais qui les a regardées de manière non pas très ancienne, mais dans la façon dont il pouvait aussi réverbérer sur les choses du présent. Et en fait, cette exposition donc, est une invitation à regarder ces collections à partir du regard que Valdemar Deuna a pu porter sur elles, et en particulier sur une réflexion qu'il a très très vite menée et qui pour moi est très moderne. C'est la réflexion sur pourquoi les objets d'art, mais aussi les objets ordinaires, nous fascinent. Pourquoi ? Qu'est-ce qui nous attire dans ces objets ? Et donc, cette exposition part de là, et j'ai envie de dire, elle ouvre par là, puisqu'elle ouvre par une salle très particulière, avec un décorum spécial. On a installé un décor qui nous vient d'ailleurs de l'Opéra de Genève. Ça n'a pas été construit spécialement pour cette exposition. Nous avons récupéré ce mur sur lequel nous avons installé tout un ensemble important de peintures, principalement religieuses, qui viennent plutôt de la période ancienne, de la période quasiment médiévale jusque dans les années 1900 d'ailleurs pour certaines.
Justement, qu'est-ce que nous voyons ?
Eh bien, on voit en fait un mur recouvert de tableaux dorés et qui dialogue au premier plan avec un sarcophage égyptien, qui lui-même est recouvert d'effigies, tout comme dans les tableaux, mais principalement des effigies qui sont installées dans un décor d'or. Et c'est cet or et les auras d'ailleurs, toutes les auréoles, l'or et autres, qui a intéressé Deuna dans une manière justement de réfléchir à ce qui, visuellement, mais j'ai envie de dire même physiquement, peut précisément en quelque sorte attirer le regard et fixer le regard dans quelque chose qui pourrait être de l'ordre de la contemplation. Donc l'idée, c'est qu'on rentre avec cette surprise, puisque c'est pas rien, on rentre dans un décor qui est un iconostase, c'est-à-dire un mur d'icônes, comme on les retrouve dans, juste à côté d'ailleurs dans l'église orthodoxe qui jouxte quasiment le musée. Donc une sorte déjà de déplacement dans un espace qui est autre, dont on sent qu'il est dans le musée, mais sans l'être, avec quelque chose d'autre. Et c'est ce déplacement qui m'intéresse, puisque Deuna non seulement s'intéresse à la fascination que l'on a pour les objets et la manière dont justement visuellement ils organisent cette attraction, mais aussi à la façon dont on peut, en regardant, en se plongeant dans justement la diversité de ces objets et la longue durée de ces objets, être transporté dans un autre espace, dans un autre temps.
Que révèlent justement ces différents tableaux que nous voyons ?
Ben là, c'est plutôt, j'ai envie de dire, une sorte de concentration, en fait, une concentration de figures, des saints, bien évidemment, la crucifixion, la Vierge et autres. C'est vraiment toute l'iconographie religieuse traditionnelle, mais avec pour point commun, et là on le voit bien, qui construit en fait cette surface brillante, luminescente, c'est les tableaux qui produisent leur propre lumière. Et ça, c'est important parce que ça fait partie, bien évidemment, en quelque sorte, du jeu visuel avec lequel on veut commencer. Et ce mur d'iconostase dialogue avec un autre mur qui est sur le côté gauche à l'entrée de l'exposition, où là on a installé en quinconce des objets de la collection qui viennent à la fois du département des sculptures, du département de l'horlogerie, donc des objets très divers, mais qui ont pour particularité d'être réunis autour justement de cette technique de la dorure de l'objet, et qui participe complètement dans la tête de Deuna, bien évidemment, à ce pouvoir d'attraction qu'ils ont sur nous.
Et de ces objets, nous voyons des garde-temps pour la plupart, c'est bien cela.
C'est ça, oui, qui correspond aussi. Enfin, c'est un dialogue avec une des spécificités de la collection d'ici, hein, puisque en fait, c'est un musée d'art et d'histoire. C'est un musée qui mêle des objets extrêmement hétéroclites, de la serrure à l'horlogerie, aux bijoux, aux tableaux de petits maîtres et de grands maîtres. Donc, ce qui était intéressant aussi, c'était de voir comment on pouvait créer une sorte d'harmonie, en fait, entre ces objets extrêmement divers, d'époques variées, mais aussi d'usages divers. Et dans cette première entrée qui est en fait fédérée par ce mur qui impacte beaucoup, j'ai envie de dire, le regard dès l'arrivée dans l'entrée de l'exposition, l'idée c'était précisément de donner cette sensation d'une fusion entre ces objets qui dialoguent. Et ça, je pense que c'est le mystère du musée en général, mais de celui-ci en particulier.
Y a-t-il un parcours pour visiter Archéologie des fluides ?
Oh, il suffit de suivre le chemin. C'est vraiment un chemin. C'est un chemin physique qui suit une ligne avec quelques petits débordements. Et la ligne, d'ailleurs, nous intéresse parce que plus tard, dans la fin de l'exposition, nous aurons dans l'installation de Tony Hunsler une timeline, une ligne temporelle qui va nous permettre justement de traverser à la fois l'espace de l'exposition, mais aussi le temps long qu'elle recouvre.
Vous avez justement évoqué le nom de Tony Hunsler pendant que nous traversons la première salle pour atteindre la deuxième salle. Qui est Tony Hunsler ?
Alors Tony Hunsler est un artiste donc américain, pionnier de la vidéo-installation. C'est une figure importante vraiment de l'art contemporain depuis maintenant une quarantaine d'années. Sa spécificité, c'est d'avoir justement utilisé ce qu'on appelle les nouveaux médias, la technologie, donc en particulier la vidéo, mais non pas pour l'installer simplement sur un écran, mais pour l'installer dans l'espace. D'où la sculpture vidéo, qui est vraiment sa marque de fabrique. Ça, c'est sa première marque de fabrique, mais il en a une autre, c'est qu'il s'intéresse à l'histoire longue de la technologie et la manière dont elle peut dialoguer aussi avec une histoire plus fantaisiste, du réenchantement du monde et autres. Donc là, à la toute ouverture, dans cette première salle, je souhaitais qu'on installe justement une pièce de lui qui est dans les collections. Il s'agit d'une édition avec une ampoule qui crépite au rythme en fait de la bande son que l'on n'entend pas ici, mais qui crépite. Et donc c'est une sorte d'ampoule bouche. Hein, c'est une ampoule qui parle, mais qui parle par la lumière. Et donc là, à nouveau, hein, on retrouve tout la dimension poétique, orphique, même d'ailleurs, le langage de la lumière qui réverbère de ces tableaux dorés et autres. On est déjà dans cette ambiance poétique.
Nous traversons cette première salle pour atteindre la deuxième.
On se retrouve derrière le décor de l'iconostase. Cet arrière, il est tout différent. C'est une toute autre atmosphère, hein, vraiment.
C'est une installation avec des échafauds.
C'est ça. C'est en fait une structure qui porte le mur d'icônes. Il fallait bien sûr pouvoir assurer le maintien, bien évidemment, du mur. Et donc, pour cela, on a installé un échafaudage. Et cet échafaudage, en fait, est une allusion à l'envers du décor, c'est-à-dire, en fait, toutes les réserves qui ne se situent pas, d'ailleurs, proprement dans le musée, qui sont externalisées en périphérie de Genève. Et là, l'idée, c'était de ramener aussi, justement, puisqu'il s'agit de cela, hein, de dialoguer avec les collections, de ramener, justement, l'univers de la réserve. Le musée, ce n'est pas simplement la face visible, c'est aussi tout un envers et on voulait le montrer. Et on voulait le montrer justement à l'arrière de ce décorum. Donc là, en fait, une structure d'échafaudage qui accueille à la fois des stèles antiques, des mosaïques, des masques funéraires et des casques genevois.
D'où proviennent-ils ces différents objets ?
Provenance très très différente. Donc là, c'est plutôt l'antiquité gréco-romaine dans un premier temps, et puis dialoguant justement de manière assez curieuse par ces ouvertures de casques avec le Genève de la période plus moderne. Et donc ensuite, une forêt de socle avec, portant donc des sculptures, principalement des bustes, des têtes. Mais là, à nouveau, hein, l'idée, c'est de pouvoir montrer combien il est possible de trouver un élément fédérateur entre des objets de périodes extrêmement différentes. Toutes les sculptures ici sont installées dans cette forêt de socle de telle manière qu'elles regardent, elles fixent même, c'est le cas de le dire, donc un tableau qui est une icône bien évidemment du musée, un tableau de Modigliani, connu pour ses portraits un peu hiératiques, avec ces fameux yeux évidés. Et l'idée était d'aller chercher dans la collection des modèles qui pourraient se rapprocher en fait de cela. Et on s'aperçoit qu'en fait ces modèles viennent de toutes parts, c'est-à-dire qu'on peut les retrouver dans l'art étrusque, dans l'art égyptien, on peut même les retrouver chez Giacometti ou dans un reliquaire du 15e siècle ou dans un masque préhistorique ou même dans un masque de carnaval, puisque là en fait les périodes, une fois de plus, on passe de l'Égypte la plus ancienne à un masque de carnaval des années 1950. Et donc ils convergent tous, hein, c'est un dispositif un peu expressif, mais qui moi me permettait de bien montrer comment en définitive ce tableau et peut-être aussi la synthèse, en définitive, de tout cet héritage des sculptures qui viennent à nouveau hein, de localisations et de temporalités extrêmement différentes. Donc, le temps et l'espace concentrés dans cette salle de vis-à-vis en fait, des regards.
Comment vous arrivez à pouvoir justement faire dialoguer ces œuvres anciennes avec l'idée du métavers?
Alors l'idée du métavers, je l'ai évoquée effectivement dans le texte d'introduction parce que pour moi, ce qui m'importait, c'était la façon dont Déona a eu cette intuition que le musée était le lieu justement de la condensation des temporalités. C'est-à-dire qu'on ne présente pas simplement aux visiteurs des objets qui appartiennent à des univers culturels, géographiques, temporels extrêmement différents, mais dans cette rencontre, et en particulier quand des dialogues formels peuvent s'instaurer, ce qui est le cas dans cette salle, il y a la possibilité de vivre de manière un peu sensible une sorte de contraction du présent dans le passé. C'est-à-dire l'idée de la simultanéité d'un présent actuel, celui de la visite du musée, avec justement l'idée d'être télétransporté, c'est le cas de le dire, dans justement un passé très ancien. Et ce que l'on va beaucoup plus manifesté dans la palatine suivante, dans la seconde galerie, puisque dans la seconde galerie, qui est une galerie qui est de style néo-grec, qui joue avec l'idée de retrouver la Grèce des origines, eh bien on va en fait là installer un décorum avec des colonnes corinthiennes et autres qui nous permettent de littéralement être basculés dans la Grèce, dans l'Athènes primitive.
On peut aller voir ?
Pourquoi ? Parce que Déona lui-même a fait ce voyage initiatique qui l'a fasciné. Il est archéologue, a fait des voyages nombreux en Grèce, a écrit énormément, c'est un érudit, plus de 800 articles sur la statuaire, les vases grecs. Donc c'était son champ, son cœur de spécialité, même si à nouveau il n'était pas fermé puisqu'il s'intéressait à des productions beaucoup plus contemporaines, avant-gardistes. Et c'est ce qui m'intéressait, c'était de montrer comment en fait Waldemar Déona, directeur, archéologue, érudit, c'est-à-dire une personnalité à nouveau hein, vraiment qui fait autorité, se permet le luxe hein, de certaines approches plus décalées et en particulier donc certaines possibilités de pouvoir, en touchant par exemple un objet, voir le passé de l'objet. C'est le tout début du texte qui me sert d'appui pour l'exposition. C'est un texte que j'emprunte donc à Déona, qu'il a publié en 1925. Il était directeur du musée depuis 4 ans. C'est dans la revue archéologique, donc dans une revue très sérieuse. L'article s'intitule « Les sciences auxiliaires de l'archéologie ». Et il reprend en fait une sorte d'imaginaire ancien du milieu du 19e où on pourrait comprendre la possibilité pour certaines personnes, habilitées, des médiums, on les appelle comme cela, en touchant les objets, avec leur capacité d'une sensibilité particulière, à voir le passé de l'objet. Donc il part de là, ce qui peut nous paraître complètement fantaisiste, mais moi ce qui m'intéressait, c'était de voir comment est-ce que Déona, en définitive en cela, anticipe sur le devenir actuel et sur les interrogations qu'on se pose aujourd'hui dans l'expérience du musée, c'est-à-dire en fait celle de commuter les temporalités, d'installer le spectateur grâce à la réalité augmentée et autres, et à toute la technologie actuelle, de pouvoir justement installer l'objet presque dans son environnement d'origine. Et l'exposition ici, c'était, sans la réalité augmentée, se permettre le luxe précisément de cette contextualisation des objets, de se transporter en fait sensiblement dans la Grèce d'origine.
Merci à vous, Pascal Rousseau, pour cette très belle visite de l'exposition. Merci à toutes et à tous. Vous pouvez retrouver ce reportage sur le site internet par le biais d'un podcast radiocité.ch. À tout bientôt.
Au revoir et bienvenue au musée.